Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti. Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid, Figouz et compagnie, qui, si ça se trouve, on va appeler ça Liénard et compagnie. parce que nous allons refaire un épisode du Père Liénard. Donc salut Yann déjà.
Salut Bézette, salut tout le monde.
Et nous allons continuer cette folle cantine, enfin je sais pas comment on appelle ça, un troubadour, enfin bref, sur le lore de Conquest, donc toujours un peu dans la genèse et quel bordel a amené le bordel dans lequel se trouvent actuellement les différentes factions. Et jusqu'à présent, nous avons vu que la chute, au sens propre comme au figuré, du Dominion. Et donc, aujourd'hui, Yann, que vas-tu nous raconter?
Eh ben, je vais vous raconter ce qui se passe après. Alors, la dernière fois, on s'était quitté sur la fuite des survivants du Dominion. Et sur les guerres qui avaient commencé entre le Dominion, enfin ce qu'il en restait en pleine guerre civile, les Dwegom et les Spires. Là, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe ensuite. Les survivants sont échappés, qu'est-ce qui se passe? J'attendais ton top départ, mais...
je croyais que c'était une question rhétorique.
Je me lance dans ce cas-là. Alors... On va déjà commencer par faire un petit résumé des courses chez les Spires et les Dwegom, et après on passera aux humains. Les Spires, c'est les grands perdants de la période. Ils ont tout perdu dans cette grande guerre civile. Leur plan pour mater le Dominion avec le troupeau, c'est un échec total. Les Spires responsables du projet sont à terre. Il ne reste plus que trois spires qui sont dans les plaines désertiques de l'Est, qui sont en train de mettre au point le projet Wadrun. Et encore, le projet se passe pas super bien.
Ouais, comme tous les projets, t'es comme les plâtres au début, quoi.
C'est ça. Et pour se dire une chose, ils ont perdu, il me semble, quelque chose comme 5 spires. Effectivement, voilà, 5 spires de perdu pendant cette guerre. Ouais. Pour se donner une idée, une spire qui tombe, c'est un événement qui est considéré comme dramatique et qui engendre des mesures généralement très fortes en répercussion. Alors, une, ça c'est pour une. Là, il y en a 5 qui tombent sur une période de temps relativement courte.
C'est exponentiel, en plus, je suppose, les emmerdes, c'est pas linéaire.
Parce que le problème aussi, c'est que les spires mettent des siècles avant de pousser complètement. Entre le moment où ils la plantent et le moment où elle pousse. Sauf cas très particulier, ça prend des décennies, voire des siècles. Donc, une qui tombe, ça veut dire que tes plans sont foutus en l'air pendant 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans. Au-delà de ça, il faut aussi se dire que les spires sont toutes plus ou moins interconnectées. En fait, ça fait une espèce de grand réseau par lequel les spires communiquent. Un grand réseau souterrain. Donc, s'il y en a 5 qui tombent, ça veut dire que ton réseau il est complètement coupé à 5 endroits. Toutes les ressources dedans sont perdues. Toutes les recherches sont perdues. Et les exilés qui restent, qui sont quand même plus très très nombreux, hein, les exilés de première génération, deuxième génération, ces exilés-là, ils sont morts. Bon, bien sûr, minus ceux qui ont pu s'enfuir. Mais bon, encore faut-il qu'ils aient pu le faire, quoi. Bon. Ça, c'est les spires. Pour les Dwegom, c'est pas beaucoup plus fameux. Hein. Ils ont envoyé des troupes, ils ont maravé de l'elfe, ils ont maravé de l'humain. Mais tous ceux qu'ils ont envoyés au centre du Dominion ne sont jamais revenus. Alors, pour le coup, pour les Dwegom, c'est un peu moins grave. c'est un peu moins grave parce qu'ils avaient quand même appris leur leçon des guerres de la mémoire et des guerres contre les Spires en premier lieu. Et ils n'ont pas envoyé toutes leurs troupes. Ils ont envoyé des troupes, des contingents importants. Mais le gros de leurs forces sont quand même restés au bercail. Donc c'était un sale coup, mais tolérable. Tolérable. D'autant plus que après ça, les guerres ne se sont pas arrêtées comme ça. Il y a toujours des conflits qui ont continué entre les Spires et les Dwegom, notamment. Bah, notamment sur les trois Spires qui restaient dans le désert.
Oui, mais c'est des petites escarmouches, quoi.
Ouais.
Ou du normal work,
Ouais.
ou du normal work.
Pas que des escarmouches, hein. Parfois ça peut être un petit peu plus fort que ça. Mais bon, quand même. Quand même, quand même, quand même. Il y a quand même, pour les Spires, un point qui était plutôt positif. C'est qu'ils ont fini par tomber pendant une bataille dans les profondeurs d'une cave, d'une forteresse de gomme, la forteresse de Gaboldom. Ils sont tombés sur les restes d'un dragon ancien, qui était visiblement mort là lors de la déchirure de la planète, lors de la destruction de la prison de guerre, mais que ni les deux gommes ni les spires n'avaient jamais trouvé. Donc c'est. Et là, les Spires, ils ont tout donné pour récupérer le cadavre et récupérer ses recherches. Ils ont tout mis. Ça leur a fait des pertes terrifiantes contre les Dwegom. Mais ils ont récupéré le corps du dragon et ils ont récupéré le laboratoire de biomancie du dragon. Et ça, en termes de valeur,
C'est jackpot.
ça a valu tous les sacrifices du monde.
Ah, tu m'étonnes.
Et d'ailleurs, pour le coup, ça a un petit peu sauvé le souverain, hein, parce que le souverain, donc on rappelle le chef des Spires, bah, après le fiasco de la campagne du Dominion, sa position elle était un peu sur un siège éjectable, quoi. Il y avait beaucoup de nobles qui commençaient à dire que ouais, il était bien gentil, mais que ça commençait à faire pas mal de fois qu'il foirait, quoi.
Position de
Et
chef, quoi.
c'est ça. Donc déjà, la récupération de ce cadavre de dragon a réussi à lui sauver la tête, mais il a eu besoin d'un autre coup d'éclat, si tu veux, pour s'en sortir. Il a autorisé officiellement des lignées marchandes, des lignées, pas forcément des nobles, mais des gens plutôt du directoire, des ingénieurs, des scientifiques, et quelques nobles aussi. Il leur a dit, bon, vous me donnez beaucoup de ressources, beaucoup d'argent au sens général. Et en échange, je vous laisse commercer officiellement avec les humains. Alors, qu'on soit clair, que des spires commercent avec des humains, c'était interdit jusque-là. Dans les faits, c'était toujours arrivé de temps à autre.
Oui, je crois que tu en avais parlé dans l'épisode
Tout à fait.
précédent.
C'était déjà arrivé de temps à autre. Mais c'était à la marge. C'est vraiment les tisseurs qui communiquent beaucoup avec les humains en général. Les spires, c'est interdit, donc déjà d'une part ils le font pas trop. Mais même sans ça, ça les intéresse pas particulièrement. Mais du coup, il leur dit, bon, je vais vous donner en gros une lettre de cachet, quoi, une lettre de marque, et vous allez pouvoir commercer autant que vous voulez avec les humains. Foutez pas trop le bordel, s'il vous plaît, mais vous pouvez le faire. Et ça, en fait, ça a libéré toute une nouvelle génération, tous les exilés qui étaient nés sur Ea, qui n'avaient jamais connu la fuite de la planète d'origine, et qui comprenaient pas trop pourquoi eux, ils avaient à rester, ils devaient rester coincés dans les spires, quoi. Je pense que j'y reviendrai un petit peu quand je parlerai des spires en tant que faction. Mais faut se dire que c'est la génération jeune qui en gros disait à ses parents, écoute, à quoi ça sert que j'aille me battre pour une planète que je connais pas, quoi. J'en sais rien de la planète dont tu viens. Moi, ma planète, c'est celle-là, quoi.
Ouais.
Et du coup, c'est la naissance des princes marchands. Et si sur le coup, ça paraissait intelligent, parce que ça a permis de canaliser les intrigues des
La
spires,
fougue.
de canaliser la fougue, et surtout les intrigues, comment dire, les intrigues de couloir, les intrigues de palais. Au lieu d'essayer de le buter lui, ils essaient de se buter entre eux pour s'arracher le droit de commercer, tu vois.
D'accord.
Lui, il a quand même pu commencer à respirer.
Tu m'étonnes.
Mais il fallait quand même reconstituer ses forces, étudier ce qu'il avait récupéré, puis prévoir ses plans pour la suite. Le reste des nobles des spires et du directoire, ils se battaient pour les rôles de prince marchand, donc ils étaient occupés. Les Dwegom, ils étaient retournés dans leur forteresse, et ils léchaient leur plaie en attendant des jours meilleurs. Et à Mannheim, les Nordiques étaient occupés à se battre contre les Jotnar, et n'avaient pas franchement le temps de s'occuper du reste. Bilan des courses. Plus rien ne menaçait le continent ou n'empêcherait les humains de survivre. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'humanité.
Ouais. Comme tout le monde se fait la guerre, eux, ils sont au milieu, tranquille, quoi.
C'est ça. Donc l'humanité, si on se rappelle, elle est divisée en trois parties. Au sud, on a les cités-états, qui à ce moment-là sont encore en train de se reconstruire, plutôt de s'agrandir sous l'influence du savoir apporté par Platon. On a les Keltonis, qui se sont installés sur les bords ouest de ce qui deviendra les 100 royaumes, à côté de la forêt des Tisseurs. Et il y a les vagues de réfugiés humains qui sont en train d'arriver, aidés par la Légion, la 13e Légion, qui les protège des créatures et des horreurs de la chute. Là-dessus, les humains vont. Quand je dis les humains, je parle bien des survivants. Hein, vont partir tout à l'ouest, rejoindre ce qu'on appelle The Bounty en anglais. On pourrait dire la récompense en français, je pense. Qui est en gros une mer intérieure, dont on dit qu'il est le dernier cadeau de la déesse Ninua à l'humanité, avant qu'elle ne disparaisse. Ninua, hein, pas l'humanité. Et c'est une mer d'eau douce, de très bonne qualité, qui se trouve, comme j'ai dit, hein, au sud-ouest des 100 royaumes, en bordure. Toute sa bordure est, c'est les 100 royaumes les plaines aériennes, il me semble. Toute la bordure ouest, c'est les tisseurs. Donc c'est une belle étendue d'eau pure sur laquelle les Keltonis prospéraient. Sauf que, il n'y a pas que la paix dans tout ça. Hein. Les survivants humains, ils étaient quand même traqués par des restes d'armées Dwegom qui se promenaient. Parfois par les tisseurs qui n'étaient pas tous contents de voir les humains débarquer en grand nombre. Parfois par des créatures biomantiques que les spires avaient relâchées, entre guillemets, par accident. Et également par des créatures des premières ères. Donc du temps de la guerre entre les dragons et l'host de la guerre, et qui n'avait pas été exterminé jusque-là. D'ailleurs, il est précisé que les fameuses légendes de saints qui détruisent des démons ou des héros qui tuent des dragons, beaucoup de ces légendes viennent de cette période, où les survivants humains ont été confrontés à un monde sauvage.
Mais ils avaient vraiment des dragons, ou c'est une métaphore
enfin... C'est une métaphore.
Ouais, c'était plus des lézards, quoi.
C'est ça, des gros lézards, des monstres, ou alors des dragons, au sens général, des monstres à forme vaguement reptilienne, ou même pas d'ailleurs reptiliens, mais qui ont été ensuite transformés en dragons par les humains, tu vois.
Oui, j'entends. D'accord.
Le seul endroit où les tisseurs n'ont pas attaqué les humains, par contre, il faut le noter, c'est sur les bords de la mer, la fameuse Bounty. Parce que ils avaient passé quelques siècles plus tôt avec les Keltonis et leurs déesses, le fait que non, ils n'attaqueraient pas les humains quand ils seraient sur les bords de la mer, parce qu'il fallait protéger l'humanité, blablabla. Du coup, les humains ont pu s'installer là en grand nombre. En parce tellement que... grand nombre, d'ailleurs, qu'ils ont fini par foutre les Keltonis dehors. Vas-y, t'as allé poser une question, je vais y répondre.
Non, excuse-moi, mais la mer là dont tu parles, c'est le gros lac à gauche ou c'est...
Oui, c'est ce qu'on appellera plus tard la mer à mer.
Ok, c'est ça. Sea.
Et elle est Bittersea parce que il y a eu tellement de conflits, de trahisons, de mises à mort entre les survivants humains quand ils se sont rendus là, parce que c'était pas, il n'y avait pas la place quoi pour autant de monde. Que, en gros, cette mer est passée de récompense à mer à mer à cause de toutes les larmes qui ont été versées dedans. Voilà, tout un programme. Hein.
Tu m'étonnes.
Bon, donc, comme je disais, les survivants humains s'y mettent de plus en plus. Ils sont plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, puis centaines de milliers à s'y mettre. et à évoluer là-bas, à tel point qu'ils foutent les Keltonis dehors, et que les Keltonis sont obligés de s'exiler plus au nord, ou carrément encore plus à l'ouest, vraiment en bordure des forêts des Tisseurs, voire carrément un petit peu dedans. Et c'est là que l'humanité va prospérer, sur les bords de cette mer. Et autant dire que c'est pas joyeux joyeux au départ, hein, c'est pas le sommet de la culture et de la bonne entente et de la diplomatie, hein. C'est les petits roitelets, c'est les seigneurs bandits, c'est des usurpateurs, des petits tyrans en herbe, des chefs de clans et compagnie, qui créent des petits royaumes, qui s'entretuent, qui trahit machin pour récupérer la terre de Bidule, ou qui égorge son pote pour récupérer sa gourde d'eau fraîche, ce genre de choses. Mais malgré ça, l'humanité quand même arrive à survivre, d'autant plus que t'as le long hiver qui commence à arriver. Donc, le long hiver, c'est la conséquence de la chute du palais d'Azlia sur le monde. C'est une espèce d'hiver nucléaire, si tu veux.
D'accord, ça n'a rien à voir avec celui de Game of Thrones.
Non. C'est une espèce d'hiver, de longs hivers, quoi. Il y a tellement de fumée dans le ciel que les températures diminuent.
D'accord.
Voir un petit peu les événements qui se sont passés IRL en 535-536, pour se donner une
D'accord.
idée.
Ok.
Et suite à ces, enfin, encore quelques décennies de ces combats-là, la fameuse 13e Légion va revenir dans ce qui deviendra les 100 royaumes. Donc ils vont retrouver les autres survivants sur les bords de la mer. Et s'ils ont quitté leur poste, c'est parce que avec le long hiver, les passes entre le Dominion et les 100 royaumes, à partir de maintenant, juste, je vais dire les 100 royaumes, hein, parce que ça commence à ressembler à ce qu'on connaît.
D'accord.
Donc entre le Dominion et les 100 royaumes, les passes ont gelé, en fait. Et comme elles ont gelé, elles sont très facilement défendables, vu que très peu de gens peuvent les traverser. Et ben, il n'y a plus de raison de garder autant de soldats pour défendre la frontière, quoi. Ils sont plus utiles ailleurs. Et à partir de là, d'ailleurs, la Légion va cesser de s'appeler 13e Légion, ou Légion tout court. On va les appeler les Ordres. Pourquoi est-ce qu'on est passé de la Légion aux Ordres? Bah, en fait, c'est parce que la Légion, elle a dû, pendant les décennies de combat, trouver de nouvelles formes d'organisation, qui était plus proche en fait de petits groupes spécialisés que d'un seul bloc uniforme. Donc les ordres, donc c'est-à-dire les différents groupes indépendants qui ont chacun leur petit truc à eux, leur manière de faire, leur machin, c'est devenu au sein de la Légion une réalité factuelle. Ça ne servait à rien de s'appeler la Légion. Les groupes étaient déjà plus connectés entre eux au départ.
Deck.
Donc les ordres commencent à s'installer dans les royaumes qui sont fondés, et ils font un peu le taf de l'ONU, quoi. C'est-à-dire que ils décrètent la paix. Si t'es pas d'accord avec la paix, si t'es pas d'accord avec la paix, bah tu te prends la paix dans la gueule.
C'est
Voilà.
ça. Très bien.
D'ailleurs, il est à noter que certains seigneurs humains se sont dit que ouais, je vais mettre les ordres au pas, moi. Ouais, ils vont apprendre quel bois je me chauffe. Le tout en oubliant qu'il parlait de vétérans qui étaient rompus à des décennies de guerre constante, à survivre dans les pires conditions et avec les meilleures armes disponibles. Voilà, les
Voilà.
prétentions n'ont pas fait long feu, hein.
C'est bien
Bon.
de dire.
Sauf que les ordres, ils restent quand même plutôt limités en nombre, hein, autant en termes du nombre d'ordres en eux-mêmes que de soldats à l'intérieur. Et plus la population humaine grandit, et après le long hiver, elle commence à beaucoup grandir, vu qu'il n'y a plus de menaces, et qu'il y a beaucoup de terrain sur lequel s'étendre, bah, ils sont plus suffisants, en fait. Ils deviennent une espèce, effectivement, de force de pacification plus ponctuelle. Ils interviennent quand les choses dégénèrent. Mais au jour le jour, ils sont plus vraiment capables d'empêcher les conflits. Par contre, si effectivement si un conflit commence à partir en vrille, là ils disent vous vous arrêtez ou on intervient. Et en général, dès qu'ils disent qu'ils interviennent, d'un coup, les choses se calment un peu. Alors, à partir de là, on récapitule la situation. Les royaumes humains sont en train de s'étendre. Il n'y a plus de menaces majeures dans les 100 royaumes. Et les ordres garantissent la paix et la sécurité. Du moins, une paix et une sécurité relative. À partir de ce moment-là, les 100 royaumes vont commencer à exister tels qu'on pourrait l'imaginer actuellement. Et les humains vont recommencer à découvrir des sciences, à faire de la technique, à redécouvrir la technique oubliée, à former des écoles, que ce soit des écoles de magie, des écoles d'artisanat, des écoles de militaire. Et ça viendra un petit peu plus tard. Et surtout, ils vont recommencer à avoir des religions organisées. Et ils vont se diviser en trois religions organisées. Les déistes, les théistes et les sceptiques. Alors là, je crois qu'il faut que je fasse un petit aparté sur eux.
Ouais.
Grosso modo, les théistes, c'est ceux qui pensent que la chute du Dominion, notamment la chute avec un C majuscule, celle d'Azilia, c'était un test pour l'humanité. Qu'en gros, l'humanité était devenue trop complaisante, trop paresseuse, c'était trop laissée porter sur ses lauriers et sur ses dieux. Et que bah, c'était un test pour la remettre dans le droit chemin.
Babylone, quoi.
C'est ça. Eux, c'est un petit peu les héritiers de l'église d'Aslia, du Dominion.
Tac.
Donc globalement, voilà. Ils croient en un dieu, Théos, qui a mis l'humanité à l'épreuve avec la chute, et qu'il faut maintenant bah, travailler à regagner son affection et le droit, en gros, de le vénérer. Les déistes, alors, eux, ils viennent aussi de la chute, mais eux, ils pensent plutôt que, ok, il y a des dieux, ok, ils ont des pouvoirs divins, mais ils ne sont pas infaillibles. Même les dieux peuvent se tromper. Donc à partir de là, il faut plutôt que essayer de vénérer des dieux et espérer leur miséricorde ou leur soutien. Il faut plutôt vénérer des vertus, qu'ils appellent les aspects, qui sont des expressions de grandes qualités divines, sur lesquelles je ne reviendrai pas, qu'on verra dans un autre épisode. Et qu'en gros, il faut que les êtres humains, ils souffrent, ils se surpassent, ils travaillent d'arrache-pied, jusqu'à pouvoir trouver une nouvelle divinité qui serait digne de recevoir l'admiration de l'homme.
C'est un peu du bouddhisme, enfin, c'est plus un Tao qu'une religion au final.
C'est un peu ça, ouais. On pourrait dire que c'est un petit peu ça. Là où l'église est théiste, ce serait vraiment des
C'est vraiment, voilà,
chrétiens.
c'est de la religion, une croyance en un dieu, en un être supérieur, alors que l'autre, c'est je crois en une puissance supérieure, mais tu dois suivre ta voie, quoi.
Je crois en un bien objectif,
Ouais.
mais vénérer un dieu ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur.
Voilà.
En soi. Et il reste les sceptiques. Bon,
Ouais,
eux,
bon.
le nom parle de lui-même, hein. Eux, ils
J'allais dire.
pensent que, ok, il y a des dieux qui existent,
On bat
mais
les couilles.
on s'en bat les couilles, exactement. Ils sont pas parfaits, ils sont pas éternels, ils sont à peine, ils sont ok, ils sont balèzes, mais c'est à peu près tout. Et pourquoi est-ce que je les vénérerais eux, et pourquoi est-ce que je vénérerais pas la grosse montagne qui est là-bas, tu vois?
Ce qui est
Donc,
pas faux en soi.
c'est ça. Donc, ils valent pas mieux que. En fait, plus précisément, ils considèrent qu'un dieu est un phénomène naturel comme un autre. Voilà.
Oui, enfin,
C'est.
c'est des êtres vivants, enfin, c'est des êtres comme des autres, mais voilà, au même niveau que les autres espèces, quoi.
C'est ça. C'est ça. Si tu vénères pas l'orage, t'as pas de raison de vénérer un dieu. Donc, l'humanité est divisée en ces trois catégories. Enfin, en tout cas, divisée en ces trois catégories, en trois églises, qui vont s'affronter plus ou moins violemment, selon le moment. Sachant que, dans les faits, les sceptiques sont toujours la catégorie marginalisée et désorganisée. La religion majoritaire, ça reste les théistes. mais les déistes ne sont pas très loin derrière. Bon, ils sont là. Et autour de l'humanité, peu à peu, les anciennes races, donc les Spires, les Dwegom, et un petit peu les Tisseurs aussi, commencent à sortir de leur sommeil. Et ils commencent à se rendre compte que, tiens, c'est marrant, il y a des humains qui se sont installés, ils commencent à reconstruire des trucs. Mais on n'a pas la force pour les repousser ou pour les anéantir. Ni vraiment la volonté, d'ailleurs.
Attends, t'es sérieux, à ce moment-là, ça veut dire que c'est tellement la merde que les, enfin, ceux qui considéraient comme des espèces quand même inférieures et qui, en plus, dont l'empire principal est fini, ils les considèrent encore comme une menace. Enfin, ils les considèrent...
Plutôt, ils ont vu à quel point les humains pouvaient être dangereux.
D'accord, et donc maintenant, ils... Ouais, ok.
Ils les traitent avec un peu plus de méfiance et de respect.
D'accord, ok.
Puis bon, il faut admettre, hein, les Spires, ils ont quand même perdu 5 Spires en quelques siècles. C'est... Ils n'avaient pas connu ça depuis les guerres draconiques, quoi.
Ouais.
Et encore, les guerres draconiques, les Spires et les Tisseurs étaient encore à peu près alliés. Après, ils l'ont plus été, mais c'était une autre question. Puis ils étaient encore, on va dire, au nombre maximum qu'ils ont été. Tu vois, c'était vraiment, ils étaient tous là. Là, déjà qu'ils étaient sur la pente descendante, un coup pareil, ça picote. Hein.
Non, d'accord, ok.
Et les Dwegom, ils n'ont pas envoyé toutes leurs troupes à l'intérieur, ils ont évité la grosse catastrophe comme les Spires. Enfin, c'est pas joyeux non plus, hein.
Roger.
Puis bon, les Spires, maintenant, ils ont le droit de commercer avec les humains, donc ils vont le faire. Mais ils vont quand même se faire une petite sécurité. C'est-à-dire que c'est là qu'on va commencer à en parler des fameux brouillards toxiques qui sont au pied des Spires. Il y a des gaz et des brouillards mortels. Pour éviter que des humains un petit peu trop curieux ne viennent découvrir des choses qu'ils ne devraient pas découvrir. À partir de là, c'est là qu'on commence à parler de disparitions inquiétantes autour des Spires. Ça et le fait que parfois, quand t'as des passants humains et que t'as un biome ancien qui a besoin un peu de matière première pour une expérience, bon.
Ouais, et si t'as voilà. pas de papier, personne va te chercher, quoi.
C'est ça, c'est ni vu ni connu, je t'embrouille. Les Dwegom, pendant ce temps-là, il y a quelques clans qui sortent pour faire du commerce.
Sérieux?
Ouais.
Du commerce. Ok.
Bon, par contre, c'est pas tout le temps, hein. C'est une ou deux fois par décennie maximum.
Ouais, c'est exceptionnel, quoi.
Sachant que certains, c'est plutôt une ou deux fois le siècle.
Ok.
D'ailleurs, à moi, dans le Living World, il y a un passage où t'as un Dwegom, Alekaneros, qui parle avec les humains, ce qu'il appelle l'ancienne langue, qui a l'air d'être l'ancien parler du Dominion, et qui servait de langue de commerce, de lingua franca, entre les Dwegom et les humains, dans les anciens temps, pour discuter et pour commercer. Et d'ailleurs, il s'étonne que plus personne ne la parle. Coup de chance pour lui, il finit par tomber sur un petit vieux qui se rappelle comment est-ce qu'on en parle, et il arrive à parler, à se taper la discute. Heureusement pour les humains présents.
Ouais, sinon ça allait mal finir.
Ouais, sinon il a commencé à se vexer. Hein. Mais, du coup, qu'est-ce qui pourrait intéresser les Dwegom, tu vas me demander?
C'est clair que...
Tu vas rigoler. Des épices.
Des épices, ok.
Du sucre et des épices. Et aussi un petit peu de bois, des trucs comme ça. Ou de la viande, ou des viandes que les Dwegom n'ont pas dans les profondeurs.
De l'agneau.
Ou de l'agneau, effectivement, des spiritueux. Mais surtout des épices, c'est ce qui vaut le plus cher.
Ok. Ils sont sûrs d'une. Okay.
J'avais eu confirmation de la part d'un des développeurs que la raison, c'est que les Dwegom, à cause de leur affinité avec la guerre et le feu et tout ça, ont un palais qui est très peu sensible aux variations de goût.
Mmh.
Ils ont un palais qui est très acclimaté aux saveurs pimentées, même s'il y en a très peu là où ils sont. Donc apparemment, pour eux, quand ils ont goûté des épices pour la première fois, lors d'un raid sur des humains, ça a été une révélation.
C'était moins fade, quoi.
C'est ça. C'est pour la première fois ce qu'ils mangeaient avait du goût. Ça a été une révélation, à tel point qu'ils ont fini par dire « Ouais, mais attends, si on tue les humains, ils pourront plus en produire. » Merde.
On va en garder quelques-uns.
C'est ça, on va les laisser vivre et puis on leur filera des babioles, genre de l'or et des joyaux. Et ça, ils ont l'air
Ouais.
d'aimer et nous, on s'en fout.
La base
Petite pensée.
du commerce.
Tout à fait. Une petite pensée pour le commerçant de Vegum qui file des diamants purs à des humains, puis qui se retourne en disant ah, je les ai trop roulés, c'est trop facile. Et pendant ce temps-là, t'as l'humain qui fait, tiens, je lui ai pris des diamants contre un peu de piment. Ah, c'était trop facile.
La valeur perçue des choses.
Tout à fait. Bah, tu me diras que pour le coup, ça va peut-être éviter quelques exterminations.
Ouais, tout le monde est content. Ça va. C'est le principe du commerce. Après, c'est sûr que si tu veux, t'as quelques diamants contre quelques épices, le prix de l'épice, tout de suite, il peut monter en flèche, quoi.
Ça explique des choses.
Ce genre de truc, quoi.
Après, ils sortent que quelques fois par siècle, hein, donc finalement, c'est pas très. Ils n'ont pas une telle influence que ce soit sur l'économie. Par contre, le fait qu'ils aient toujours autant d'or et de joyaux quand ils arrivent, bah, ça a fait naître des rumeurs comme quoi les forteresses de Gomme seraient pleines de richesses. Et ça a entraîné des pillages.
L'envie.
C'est ça. Des expéditions qui sont parties pour essayer de piller les forteresses. Beaucoup ne sont pas revenus, étonnamment. Quelques-uns sont revenus et ils voulaient pas parler de ce qu'ils ont vu. À tel point, et d'ailleurs, parfois, il y a des expéditions qui sont rentrées. Elles disparaissent pendant 2 semaines. Puis t'as les soldats de Wagom qui sortent et qui vont ravager les alentours. Bilan des courses, beaucoup de seigneurs humains ont fini par dire, ouais, non. Non, non, on interdit les expéditions.
Attends, tu me l'as refait. Il y en a qui sont revenus.
Qui ont
Ah,
pas
ok.
voulu en parler. Et parfois, il y a des expéditions qui sont rentrées chez les Dwegom.
Ouais.
Et quelques semaines plus tard, t'as des guerriers Dwegom qui sortaient de la forteresse pour tabasser le monde.
Ok, il les prenait en filature, quoi. Enfin.
Ouais, ou bien ils les prenaient en filature, ou bien ils les faisaient prisonniers ou les tuaient. Ils faisaient parler un petit peu ceux qui restaient. Et une fois qu'ils avaient le nom du commanditaire,
Ils
bah
allaient
ils allaient.
s'en occuper, quoi.
C'est
Ok.
ça. Ils allaient remettre les points sur les i.
D'accord.
Ce qui a poussé d'ailleurs des rois et des seigneurs humains à tout simplement interdire les expéditions dans les forteresses, voire à payer de leurs frais des patrouilles chargées d'arrêter les pilleurs de tombes en herbe. Étonnamment, les Dwegom n'ont pas grogné en voyant des petites troupes humaines qui empêchaient les pillards de rentrer. Ils ont dû comprendre que c'était mieux pour tout le monde.
T'as des gardes du corps tranquillou
Et
qui
c'est
font le boulot
gratos.
pour eux, ouais. Et puis le jour où ils veulent, ils les tabassent et puis c'est tout, quoi.
Il y a quand même quelques humains qui ont essayé d'être un peu plus diplomates et de demander aux Dwegom ce qu'ils voulaient faire en fait. Qu'est-ce qu'ils préparaient? Ou qu'est-ce qu'ils faisaient depuis tout ce temps-là dans leur forteresse, quoi.
Et alors, ils ont eu des réponses?
Alors, comment dirais-je? Si tu vas regarder le trailer des Dwegom et que tu vas ensuite lire un article dédié sur le site, dont malheureusement je n'ai plus le titre, mais il est facilement trouvable, on a un jeune érudit de son royaume qui va dans une forteresse Dwegom et qui commence à déchiffrer les runes. Une patrouille lui est tombée dessus, il n'a pas trop eu le temps de poser la question. Il s'est fait décapiter. Et on a amené sa tête et sa besace avec toutes ses notes à un némantien, donc les fameux, entre guillemets, gardiens de la mémoire des Dwegom, hein, les némantiens. Et le némantien a commencé à lire les notes, ce qu'il avait écrit. Il s'est tapé une grosse barre de rire. Et il a dit, grosso modo, oh bah, il était pas loin de la vérité, celui-là. Allez, balancez-moi le cadavre dehors, ça fera un avertissement pour les autres. Voilà, d'autant plus que certains sages te diraient que, bon, ne demande pas trop aux Dwegom ce qu'ils font, tu risquerais d'avoir une réponse.
Ouais.
Voilà. Donc c'est à ce moment-là, donc on va encore laisser passer quelques décennies où les humains continuent de s'étendre, de recouvrir de plus en plus de ce qu'on appellera les 100 royaumes, jusqu'à rencontrer un petit groupe qui vient de cités situées plus au sud. on l'aura déjà deviné, il s'agissait des cités-états. Et ils vont finir par rencontrer, donc les sauts royaumes vont finir par rencontrer leurs cousins cousins sudistes. Et comment dirais-je, ça s'est pas super bien passé. Parce que grosso modo, les cités-états les prenaient pour des barbares.
Ah d'accord.
Okay. Et en plus de ça, à ce moment-là, les cités-états, c'était le moment où ils étaient en plein combat les uns contre les autres. C'est tous les problèmes sur leur dieu dysfonctionnel, tout ça. Donc ils n'avaient pas trop le temps de s'occuper des 100 royaumes. Et au même moment, à peu près dans le nord, les Nordiques venaient de terminer leur unification.
Ah.
Et ils ont commencé à lancer des raids. Et c'est là qu'on a eu la première vraie guerre entre les 100 royaumes et les Nords. Au début d'ailleurs, ça se passait plutôt bien pour les 100 royaumes. Bon, ok, c'est pas une guerre facile non plus, mais ça se passait pas trop mal. Les ordres arrivaient à défendre les gens, les royaumes arrivaient à se défendre. Sauf que ben, plus les Nords attaquaient, plus ils ramenaient de richesses. Plus ils ramenaient de richesses, plus ils attisaient la convoitise de leurs confrères. Donc plus les raids s'intensifiaient. Au point où ce qui était avant des petits raids ponctuels, c'est devenu quasiment une invasion à grande échelle, quoi. Et les ordres ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas vraiment pu arrêter les vagues d'assaut. D'autant plus que t'as l'ordre du Temple Scellé qui a essayé, grosso modo, de prendre un contrôle assez direct des Royaumes du Nord. Ça a backfire complètement, à tel point qu'ils ont fini par tuer un saint, les royaumes, sans doute pas les ordres, et que ça a fini en bain de sang généralisé. Donc une guerre civile en plus des raids. Voilà, c'est pas assez la merde. Hein.
Ouais, faut voilà. En rajouter, quoi.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle dans les 100 royaumes les années rouges.
C'est-à-dire pour le sang. Ouais.
C'est ça. C'est la galère. En plus de ça, ben, y a la fameuse invasion qui n'est même plus un raid général, mais vraiment une invasion d'installation hein, qui a été menée par un araignard. Et ok, l'invasion a été battue en fin de compte par les ordres et les royaumes mêlés. Mais ils ont pris une telle claque, les ordres, que l'ordre du Temple Scellé, d'ailleurs, apparemment, maintenant, c'était un ordre majeur, c'est devenu un ordre mineur, quoi. En une invasion.
Ah, en une invasion.
C'est ça. L'assaut général des Nords s'est arrêté, l'ordre scellé n'existait quasiment plus. Voilà.
Ouch.
D'autant plus que là, c'est un peu plus un aparté, hein, mais les Nords aussi ont essayé de s'installer, définitivement. Ce qui a mené à la création de colonies. D'ailleurs, certains des 100 royaumes actuels ont une population nordique non négligeable. Ce qui donne parfois naissance à des mélanges des genres assez intéressants. Quand, par exemple... Ben, ta fille qui s'est mariée à un Nord donne naissance à un ogre. Tu sais pas trop d'où ça sort. Okay. Et le Nord, il fait bon, ben, dans mon pays, c'est pareil.
Oh, il a les yeux de ma mère.
Les yeux de ma mère. Ah, je le reconnais, celui-là. Ah, ça, c'est bien le mien. Et les parents de la jeune fille à côté. Quoi?
Bah, heureusement qu'elle n'a pas trompé son mari, Sanka, avec un Nord, sinon ça serait.
Ah, ce serait un super scénario à écrire, ça.
C'est le fils du facteur, quoi.
C'est le fils du facteur. C'est le fils du voisin. Le beau vieux grand blond aux yeux bleus qui s'installe là. Yvan, il s'appelle.
Excuse-moi. Continue.
Et c'est dans ce contexte qu'est né un certain Charles Armatellum, qui allait devenir empereur. Alors pas vraiment lui, hein, mais c'est un peu comme César, dictateur à vie, tu vois, on le dit
empereur. Ouais, mais empereur de quoi, j'allais dire, parce que...
Ben j'y viens.
Allons-y.
Donc lui, il est né plutôt dans les royaumes au sud. Pas les cités-états, hein, mais les royaumes au centre-sud et son royaume. Et c'est le bâtard d'un noble, un petit noble mineur, qui a hérité du domaine de son père. Et en gros, c'était un grand, grand fan d'histoire qui a beaucoup appris des différentes guerres entre les royaumes. Et son père avait finalement un domaine qui n'était pas si petit que ça. Charles était très apprécié de ses sujets. Et il a commencé, un peu en mode monopoly, à récupérer les territoires de ses royaux seigneurs voisins. Je mets royaux seigneurs parce que, bon, parfois les rois de son royaume, le royaume, il s'arrête au mur de la ferme, tu vois. Toujours est-il qu'il a commencé à récupérer un peu les territoires autour de lui. Et comme il était toujours très apprécié, très intelligent, très généreux, beaucoup de volontaires se pressaient pour grossir les rangs de son armée. À tel point qu'il a pu faire un mariage très avantageux avec une jeune fille de la haute noblesse qui avait beaucoup de prétentions, de titres et de ce genre de petites choses. Et que, guerre après guerre, il a honoré tous les titres de sa femme. Il a été récupéré la couronne de machin, le duché de Bidule, le comté de Bougnou, etc., etc. À tel point qu'il a fini par contrôler toutes les terres centrales de son royaume, sous sa seule férule.
C'est pas mal. C'est pas mal.
C'est pas mal du tout. Donc là, à ce moment-là, il était déjà le chef de ce qui était sans doute le royaume le plus riche qui ait jamais vu le jour dans les 100 royaumes. Et ça aurait pu s'arrêter là. Et d'ailleurs, ça aurait dû s'arrêter là. Parce qu'on commençait à le voir un peu comme une menace. Son empire était pas encore vraiment un empire, était pas très stable. Ok, il avait beaucoup de titres par sa femme, mais bon, c'était pas fou. Et en soi, c'était déjà un beau palmarès, hein, avoir un royaume pareil, c'était déjà pas à la portée de n'importe quel kidam. Mais il a eu un coup de génie. Il a déclaré qu'il allait combattre les cités-états qui s'étaient établies dans les plaines aériennes, qu'ils avaient piqué au son royaume quelques décennies plus tôt, et que dans sa grandeur de souverain, il allait sauver les sujets des cités, enfin des son royaume, coincés sous l'horrible férule des cités-états, et rendre leur possession légitime aux légitimes seigneurs de cette terre. La banco, de plus en plus de royaumes le suivent, et il y a là le début de la campagne des plaines. Donc, il y a la grande guerre entre Charles et les cités-états qui contrôlent les plaines aériennes.
Je sais pas pourquoi, mais ça pue pour Charles.
Ah non, il va les pulvériser.
Ah ouais ?
Il les a bouffés. Apparemment, à tel point que les stratégies qu'il a utilisées dans ces guerres-là, dans cette guerre-là, sont encore étudiées dans les 100 royaumes actuels.
Joli.
Les cités-états sont pulvérisés, massacrés, foutu dehors à coups de pied dans le cul. Il récupère les plaines aériennes pour lui. Les petits seigneurs qui récupèrent leur territoire, ah ben bien sûr, ils lui prêtent allégeance dans la foulée avec une grande joie. De toute façon, ils n'ont pas... Comment dire ? Ceux qui n'étaient pas volontaires ont été rapidement mis volontaires. Et ils commencent à se faire surnommer non plus Charles Armatellum, mais Charles Martel. Avec deux L, on précise. Et sa réputation s'étend dans tous les 100 royaumes. En cela également aidé par le fait que, en public, il affirme une énorme loyauté au principe de l'église déiste, laquelle le lui rend bien en diffusant sa légende à qui veut l'entendre par son réseau d'église. La gloire personnelle plus la propagande religieuse, ça fait toujours bon ménage. D'ailleurs, pour l'anecdote, Charles lui-même était un sceptique convaincu. Hein. Il n'en avait rien à faire de la religion.
Ouais, mais bon, là, tu vois, c'est du business.
C'est ça, c'est business is business. Ça sert à rien de se mettre à dos l'église. Et d'ailleurs, il va envoyer sa femme, la belle Olivia, près de l'église théiste pour les rassurer, leur faire des yeux de chimène, des mots doux, leur donner beaucoup de pognon et leur dire que dans tous les cas, s'ils sont pas d'accord, et ben, de toute façon, on les remplacera par l'église déiste. Voilà. Donc, l'église théiste finit par accorder sa bénédiction à Charles également. Et à partir de là, Charles, il a sa deuxième idée de génie. Il faut qu'il repousse les Nords, qui se sont établis dans le Nord. Alors, pour ça, la solution la plus simple, ce serait de la faire à la Alexandre le Grand. C'est je prends mon armée. Et je vais les bouter hors de son royaume à coups d'épée. Mais c'est pas forcément très malin de faire ça. Parce que s'il le fait et qu'il échoue, sa réputation sera ruinée et il risque de tout perdre. Alors il décide plutôt de la jouer fine et de faire de la diplomatie du chéquier et en fait de donner beaucoup d'argent aux seigneurs de son royaume qui combattent encore les Nords ainsi qu'aux ordres. Pour qu'ils repoussent les Nords eux-mêmes. Et comme ça, quand Charles intervient finalement, il n'y a plus que des restes à ramasser, quoi. Et il peut facilement les mettre en déroute. Et à partir de là, bah, les seigneurs nordiques, pas Nords, hein, les seigneurs du Royaume du Nord, sont libérés du joug des Nords et des Éreignards. Et ils rejoignent gentiment le futur empire de Charles. En deux temps, on fournit de l'argent, puis on attaque. Donc là, maintenant, Charles, il arrive quand même à ses années matures, hein, voire très matures. Et il a tout. Les son royaume tels qu'on les connaît sont entièrement ou presque sous sa férule, à quelques exceptions près. Il n'a plus de résistance interne à son règne. Il n'a plus de menace externe immédiate. Les Nords s'étant repliés de façon, disons, désorganisée et n'osant pas relancer de grands raids tout de suite. Et il va donc passer une décennie à peu près à remettre son empire en état, à consolider ses acquis. Mais il n'est pas encore empereur à ce moment-là. C'est plus une espèce de grand roi, mais sans plus. Mais il sait très bien que le jour de sa mort, son royaume risque de voler en éclats. Et du coup, il lui faut une astuce, un moyen de pérenniser son héritage. Alors, il a bien un fils qui s'appelle Perrin, qui est un homme tout à fait capable. Mais bon, si Charles meurt et que son fils se retrouve balancé dans les intrigues de cour, il y a quand même des chances que ça se passe mal, même si son fils est intelligent et responsable. Alors Charles a une idée. Il va se rendre de lui-même aux ordres et il va décider de déposer sa couronne, d'abdiquer en faveur de son fils. Et de rejoindre l'ordre du Temple scellé. Donc là, c'est quand même plutôt osé, hein, ce qu'il tente de faire.
Oui, mais c'est intelligent.
C'est très 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 intelligent. C'est osé parce que finalement, il perd son titre, hein, donc il y a toujours un risque. Mais d'un autre côté, il se met lui-même dans une bonne position. Les ordres ne peuvent pas refuser d'avoir un homme aussi influent et puissant en eux.
Et un stratège en plus.
Et un stratège. Mais en même temps, s'il les rejoint. Quelque part, avec un tel background, ils sont un peu ses
Ça.
obligés aussi. Ils sont obligés de protéger sa lignée, de le protéger lui. Ils peuvent
C'est
pas
ça.
juste dire merde alors que son royaume part en volo.
Et en plus, il va pas être trop fion de base, quoi.
C'est ça. Tout à fait. Et du coup, les ordres vont finir par se porter garant du royaume. Et un an plus tard, Perrin se fait couronner par à la fois l'église théiste et l'église déiste dans la ville d'Argem. Sous la protection des ordres, Perrin Ier, empereur de l'humanité, empereur de l'Empire Télian. Et voilà, tu y es, le dernier empire que l'humanité ait connu. Il est né et maintenant il va s'effondrer.
C'est toujours pareil dans le Lord Conquest.
Bah, un jour que j'étais sur une interview, un interlocuteur m'avait fait remarquer Conquest, c'est du médiéval fantastique post-apo.
Oui.
C'est pas faux. Pas faux du tout. Donc l'Empire Tellien va quand même durer plusieurs siècles. Hein. Je crois qu'il a duré 3 ou 4 siècles, à peu près. Ouais, 3 bons siècles, je crois. Pendant lequel l'humanité a prospéré. On crée les grandes universités de magie. On crée les écoles de guerre. On formera les officiers. On crée de nouvelles légions armées. Et bah, la Steel Legion, la Golden Legion et tout ça. Hein, la Gilded Legion et tout ça. On crée la chancellerie, qui est en gros l'intendance, le premier ministre, si tu veux, de l'Empire, qui existe encore aujourd'hui. Mais bon, après deux siècles de prospérité totale, les choses commencent à se gâter. Les cités-états Ok, elles galèrent un peu à se reformer, mais elles finissent quand même par se remettre d'aplomb et par disputer les territoires du sud. Les Nordiques reprennent du poil de la bête, notamment sous l'impulsion des Valkyries et des Volvas, et recommencent des raids à plus grande échelle. Les Dwegom ressortent de leur forteresse, les Spires ressortent de leur tour. Et puis bon, ça reste un empire qui était quand même fait sur une base assez peu solide, qui recouvre beaucoup de réalités différentes et beaucoup de territoires différents. Et finalement, l'Empire Tellien va finir par succomber lors d'un énorme complot qui va voir en fait l'assassinat de tous les héritiers du trône en même temps et l'explosion de l'Empire en les 100 royaumes que l'on connaît actuellement. Mais tout n'est pas perdu de l'Empire. La chancellerie est encore là. Les légions sont encore là. Même si elles sont devenues plus des espèces de mercenaires d'élite que des forces du pouvoir impérial. Il y a encore des rois puissants qui pourraient prétendre à la couronne. Puis l'humanité, elle a connu un empire. Et ce qui s'est déjà produit une fois peut se reproduire une nouvelle fois plus facilement. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Les différentes factions sortent de leur sommeil. Les humains se retrouvent encore une fois au centre de toutes les intrigues. Et la suite, ce sera à suivre dans le Living World.
D'accord. Et question sur le complot. Enfin, on sait qui a fomenté le complot pour assassiner tous les héritiers de l'Empire ou...
Alors,
enfin, c'est toujours un peu obscur, c'est des nobles qui se sont dit allez, c'est le bon moment, ou c'est les spires qui ont dit tiens, vas-y.
Alors, je t'avoue que je l'ai su à une époque et depuis j'ai oublié. Mais c'est pas forcément. Alors, on sait que les spires n'y sont pas étrangers.
Ouais,
très clairement, ils aimaient pas avoir trop, des humains puissants en bas de chez eux.
Ouais, et unis en plus. Je pense que c'est surtout ça.
Tout à fait. On sait que voilà, les spires n'y sont pas étrangers, mais ce serait... Il y a peut-être un petit peu du Old Dominion aussi hein, qui a pu jouer, vu qu'ils ont des cultes d'Azilia dans l'Empire. Mais il faut pas sous-estimer simplement la bêtise humaine. Vraiment. C'est... On serait tenté dans le cadre de Conquest de faire un petit peu comment dire les humains c'est les gentils et ouais de toute façon c'est la faute des autres grands méchants si y a des problèmes et si rien ne tient. Ce serait grandement exagérer les choses, très grandement.
D'accord.
À la base de tout ça, il y a le fait que l'Empire Tellien, il n'était pas stable de base. Il a été conquis en un temps record. Il a été tenu par la force des armes et de la diplomatie, certes, mais par les armes en premier lieu, même si c'était les ordres. Et au final, c'est déjà un miracle qu'il ait duré deux siècles, quoi.
Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est Charlie qui a quand même tout fait pendant son temps, et donc ça reposait sur en fait sur un homme, quoi, enfin
Tout à
même pas
fait.
sur un truc, quoi, c'est
Ça repose, un peu l'empire d'Alexandre le Grand et IRL, hein, ça reposait sur un seul homme. Le coup de génie de Charles, ça a été de laisser le trône à son fils, ce qui a directement donné une légitimité à sa lignée. Et ça a évité un effondrement. Mais ça aurait tout à fait pu rater, hein.
Ouais, mais bon, encore, je pense qu'il l'a fait parce qu'il avait formé son fils et qu'il a vu que son fils n'était pas très con. Et il a mis un petit parachute en joignant les ordres. Mais voilà, est-ce que le fils a bien. Enfin, il y a eu peut-être de la perte de compétences à travers les générations, quoi.
Ah,
Puis
puis
bon,
même.
s'il avait un fils, ça va. Si lui, son fils, il en a deux ou trois, ça commence à. Peut-être, je pense, ça commence à avoir des branches secondaires et tout ça, et puis au bout d'un moment, t'en as qui se disent, ouais, vas-y, on est ras-le-bol.
C'est ça, tout à fait ça. Et si tu ajoutes à ça un petit peu de fourberie des spires pour huiler un petit peu les. Pour huiler les trucs, les complots, bah ça se passe mal, quoi.
Façon, s'il y a un coup de pute quelque part, il y a un spire pas loin, je pense. Enfin,
Comme toujours. Toujours. Ils sont toujours dans les mauvais coups, ceux-là.
La Team Rocket.
Sauf que malheureusement, malheureusement, il ne perd pas toujours à la fin. Et c'est dommage, mais parfois il gagne.
C'est comme ça.
Mais donc
Bon.
voilà. C'est là, je vais terminer. J'ai terminé la chronologie officielle de Conquest, du moins celle du compagnon.
D'accord.
Et nous en sommes rendus désormais, ben, à nos jours. La suite dans Living World, comme j'ai dit.
Ok. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va faire des zooms par faction, des choses comme ça, ou...
Ben, c'est effectivement ce que je me demande moi-même. Je pense que la prochaine fois, je vous parlerai. Alors, peut-être pas les cités tout de suite, vu qu'on a déjà fait un petit stream dessus il y a quelques temps. Mais je pense que la prochaine fois, je parlerai ou bien des tisseurs, pour revenir un petit peu sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils ont fait, et sur ce qui est advenu des Keltonis. Ou bien sur les Wadrun, pour expliquer ce qui se passait en parallèle de l'Empire Telian des humains.
Bon, ça serait pas mal les Wadrones, parce que même si en plus, enfin, pendant l'épisode 101, même si Chip il a vite fait parler du fluff, y a pas on n'a pas le label Perlinar approuve, donc peut-être
Bah, ceci. Bah, écoute, de toute façon, je pense que certains téléspectateurs, enfin, auditeurs, ne manqueront pas de venir me proposer
leur avis.
leurs avis en privé, ou en public d'ailleurs, se connaissant certains. Mais de tous les cas, je pense que pour le prochain rendez-vous, j'aurai une bonne idée de ce que je vais faire. T'inquiète
De
pas.
toute façon, c'est surtout, enfin, c'est pas une question de qu'est-ce que, enfin, on parlera de tout, donc après, c'est juste
Oui, oui, oui.
une sorte de priorisation.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Bon, et ben voilà, c'est donc la fin de cet épisode et de cette genèse, hein, arriver dans le Living War, comme il a été dit. Donc, vous pouvez réécouter tous les épisodes, hein, pour vous refaire l'intégrale de tout ça. Et un grand merci à toi, Lien. Et j'espère que pour le prochain épisode, on saura de quoi on va parler.
Pas de soucis, t'inquiète pas pour ça. Merci à toi en tout cas pour cette chronique que tu m'as accordée.
Bah, ça va continuer, hein.
Ouais, tout à fait. Hein. Rendez-vous la semaine prochaine pour avoir de nouvelles aventures, comme dirait l'autre.
Voilà. Et un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'était Billy the Kid et Liénard, fin de l'épisode.
Bonne
À vous
soirée.
les studios, bonne soirée, ciao.